لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue dans le chapitre de la peur de la crainte du polythéisme. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أخرجه أحمد والطبراني. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est الشرك الأصغر, c'est-à-dire le polythéisme mineur ou le shirk mineur. Et lorsqu'on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est ce shirk mineur, il a dit ar-riya, c'est-à-dire l'ostentation. Donc je lis directement la signification du hadith, est-ce qu'on en profite pour pas être trop long. Donc il dit al-ma'na al-ijmali yulid hadith li kalam shafaqatihi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bi haythu lam yatruk khayran illa dallahum alayhi wa la sharran illa hadharahum minhu. ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait un penchant complet pour sa communauté, un souci complet pour sa communauté, et la miséricorde et le désir de les conseiller, il n'a pas laissé un bien sans qu'il leur ait montré, et il n'a pas laissé un mal sans les mettre en garde contre ce mal. Et parmi le mal contre lequel il a mis en garde les gens, il y a le fait de se montrer, d'extérioriser l'adoration, une adoration pour avoir la louange des gens, c'est-à-dire pour que les gens y te vantent. Parce que c'est du shirk, c'est de l'associationnisme dans ton adoration. وَهُوَ وَإِنْ كَانَ شِرْكًا أَصْغَرًا فَخَطَرُهُ عَظِيمٌ لِأَنَّهُ يُحْبِطُ الْعَمَلَ الَّذِي قَارَنَهُ. Donc il dit, même si c'est considéré comme ce qu'on appelle du shirk asghar, c'est-à-dire du polythéisme mineur, donc c'est-à-dire qui ne fait pas sortir la personne de l'islam, son danger il est énorme, parce qu'il annule l'action dans laquelle il est présent. وَلَمَّا كَانَتِ النُّفُوسُ مَجْبُولَةً عَلَى مَحَبَّةِ الرِّئَاسَةِ وَالْمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ. Et comme les gens ils aiment, c'est-à-dire les gens ils ont été créés avec en eux l'amour de ar-ri'asa, c'est-à-dire le fait d'être le chef, ou al-manzila, c'est-à-dire avoir une position chez les gens et dans le cœur des gens. Illa man sallama Allah kana hadha akhwafu ma yakhafu ala as-salihin. Et donc, sauf ceux pour qui Allah il a voulu un cœur sain de ces choses-là, donc c'est la chose qu'on craint le plus pour les pieux. C'est-à-dire ceux qui savent, par exemple, que le shirk al-akbar il est interdit et qui sont dans la religion, eux pour eux, ce qu'on craint le plus, c'est le shirk al-asghar, c'est-à-dire l'ostentation. لِقُوَّةِ الدَّاعِ إِلَيْهِ. Pourquoi il dit قُوَّةِ الدَّاعِ إِلَيْهِ, ça veut dire parce que c'est, ce qui appelle à ça, c'est très fort chez les gens qui sont dans la religion. Ce qui les appelle à faire l'ostentation, c'est quelque chose c'est une force, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire ils sont fortement attirés par cette chose-là. La plupart des gens pieux, c'est-à-dire ils ne sont pas attirés par le shirk al-akbar. Si tu demandes à n'importe quel jeune maintenant, est-ce qu'on a le droit d'adorer les tombes, etc. Sauf ceux qui sont dans les toruq soufia, etc. Ils vont te dire, bien sûr que non, c'est interdit, etc. Mais par quelle chose ils sont tentés? C'est par l'ostentation. Donc l'ostentation, en fait, c'est d'embellir ses actes pour plaire aux gens. Donc par exemple, par faire sa prière parce que les gens ils me regardent, etc., etc. Faire des œuvres qui sont à la base faites pour Allah, mais les améliorer pour les gens. Mais si maintenant, à la base, la personne, toutes ses œuvres, elle les fait que pour les gens, ça c'est pas un musulman, ça c'est un munafiq. En fait, nifaq et riya, ça se ressemble. Dans le sens où un munafiq, un hypocrite dans le sens de la religion, lui, c'est d'entrer. C'est le fait d'entrer carrément dans la religion où il fait semblant, et il le fait pour les gens. Et toutes ses œuvres, elles s'en suivent. Parce qu'en fait, au fond de lui, il cache la mécréance et il extériorise l'islam. Dans ce sens-là, le riya, ce serait un riya qui fait sortir d'islam. Mais sinon, le riya, la personne qui le fait, elle reste musulmane, mais il a commis du shirk, une catégorie de shirk. بِخِلَافِ الدَّاعِ إِلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Donc, contrairement à ce qu'on appelle الشِّرْكُ الْأَكْبَرِ, au polythéisme majeur. Là, il y a peu de choses qui appellent les gens pieux à faire ça. فَإِنَّهُ إِمَّا مَعْدُوبٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْكَامِلِينَ وَإِمَّا ضَعِيفٌ. Parce que soit ça, le shirk al-akbar, il n'existe pas dans le cœur des croyants pieux, ou soit c'est-à-dire il est faiblement présent. L'appel au shirk akbar, il est faiblement présent. Donc il dit ma yustafadu min al hadith shiddatu al khawf min al wuqu' fi shirk al asghar. Donc la grande peur, qu'est-ce qu'on profite du hadith? La grande peur du fait de tomber dans al-shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Wa dhalika min wajhayn, pour deux points. Al-awwal anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam takhawafa min wuqu'ihi takhawufan shadidan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a eu peur de ça pour sa communauté, d'une grande peur. Al-thani annahu sallallahu alayhi wa sallam takhawafa min wuqu'ihi fi as-salihin al-kamilin faman dunahu min babi awla, min babin awla. Parce que aussi le prophète, deuxième point, il a eu peur de ça pour les gens pieux. Parce qu'à qui s'adressait le prophète à un moment où il a dit ça? Devant lui, c'était les compagnons, c'était ses compagnons. Donc si pour les compagnons du prophète, il a dit la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'ostentation, alors qu'en est-il de nous, de ceux qui sont en dessous des compagnons du prophète? Shiddatu shafaqatihi sallallahu alayhi wa sallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nus'ihi lahum. Aussi le grand penchant qu'il avait le prophète pour sa communauté, et le fait que le prophète était accroché à guider sa communauté et à leur donner le conseil, parce qu'il leur a montré la chose qu'il craignait pour eux. Anna ash-shirka yanqasimu ila akbar wa asghar, fal akbar huwa an yusawwiya ghayra Allah billahi fima huwa min khasa'isillah. Donc que le shirk, on profite aussi du hadith que le shirk se divise en akbar, c'est-à-dire plus grand, et asghar, c'est-à-dire plus petit, donc majeur et mineur. Donc il dit le majeur, qui c'est qui pourrait me donner une définition du shirk akbar, qui englobe toutes les catégories de shirk, que ce soit dans l'asma ou sifat, dans tout. Bon, ceux qui comprennent l'arabe, ils ont déjà entendu la définition. Pardon? Non, non, justement, ça c'est un exemple. Moi je veux une définition qui englobe tout. Ça c'est un exemple. En fait, la définition elle est bonne, mais cette définition elle concerne que shirk dans l'ibada. Et là ici il a dit huwa an yusawwiya ghayrullahi billahi, donc ça c'est ce que tu as dit, fima huwa min khasa'isillah wa min khasa'isillah al-ibada. Voilà. Donc ça veut dire, il a dit qu'on mette à égal autre qu'Allah avec Allah dans ce qui est propre à Allah. Donc l'adoration, c'est quelque chose qui est propre à Allah, mais il y a aussi autre chose. Il y a ses noms par exemple, ses attributs, et au fait le fait de créer, de donner le risque, etc. Donc c'est le fait de tout ce qui est propre à Allah comme nom, comme attribut, comme adoration qui lui sont dues. On met quelqu'un à l'égal d'Allah dans ça. Donc il y a tout ce qui est adoration, mais il y a aussi par exemple ceux qui disent que Allah il ressemble aux hommes par exemple. La face d'Allah est comme la face de l'être humain. Il a mis dans une caractéristique d'Allah qui est Al-Wajj, il a mis à égal la créature et le créateur. Donc il a commis du shirk akbar. والأصغر هو ما أتى في النصوص من شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. Et le shirk asghar, sa définition, en fait, c'est ce qui reste. C'est tout ce qui a été nommé shirk dans les textes, dans le Coran, la Sunna, mais qui n'atteint pas le shirk akbar, c'est-à-dire en fait dont la personne qui le commet n'est pas traitée de mécréance. Il dit wal farqu baynahuma, et la différence entre les deux, an al akbara yuhbitu jami' al amal, jami' al a'mal. Il dit c'est que la différence entre les deux, c'est que le grand polythéisme annule toutes les actions, c'est-à-dire que si une personne musulmane viendra commettre du polythéisme, elle devient mécréante, du shirk akbar, donc le grand shirk, elle devient mécréante et ses actions passées sont annulées. وَالْأَصْغَرَ يُحْبِطُ الْعَمَلَ الَّذِي قَارَنَهُ. Alors que le polythéisme mineur, il n'annule que l'action dans laquelle il est présente. C'est-à-dire, si moi je donne par exemple, j'ai l'intention de donner 10 euros à un pauvre, mais comme il y a des gens, je donne 20, c'est cette action-là, mon aumône, qui est annulée. Mais mes autres actions, elles sont dans lesquelles j'étais sincère envers Allah, elles restent acceptées. Après, les ulama, ils divergent par exemple sur la prière, et ils ont dit la salat, en fait, si tu rentres d'emblée dans ta salat par ostentation, donc ça c'est clair, elle est nulle. Si tu rentres dans ta salat sincèrement pour Allah et l'ostentation elle vient, si tu agis après ça par ostentation, même si c'est pas jusqu'à la fin de ta prière, ça veut dire que tu n'agis pas ostentation, après tu es redevenu sincère, etc. En fait, si, il y a deux cas. Si tu as combattu l'ostentation, c'est-à-dire l'ostentation elle t'est venue et toi tu la repousses, même si elle vient 10 fois, si tu la repousses 10 fois, ta salat elle a accepté. Parce que tu l'as repoussée. Et ça, c'est quelque chose qui vient à tout le monde en vérité. Mais si tu l'as laissé venir à toi et t'es rentré dans le jeu, ça veut dire que tu commences à embellir ta prière pour les gens, là, ta prière n'est pas acceptée, complète. Même si au début elle était sincère. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est une adoration complète. Elle n'est pas divisée en plusieurs parts. C'est quelque chose qui commence par Allah Akbar, qui finit par Taslim. Ça fait un bloc. Donc soit il est bon, soit il n'est pas bon. Ensuite, il dit "An al-akbara yukhallidu sahibahu fi an-nar wal asghara la yujibu al-khulud fi an-nar." Aussi, la différence, c'est que celui qui commet al-shirk al-akbar, il est éternel en enfer, contrairement à celui qui commet al-shirk al-asghar. "An al-akbara yanqulu 'an al-milla wal asghara la yanqulu 'an al-milla." Que le grand shirk se fait sortir de la religion, contrairement au petit shirk. Enfin, petit shirk, au mieux dire shirk mineur, parce que petit, c'est pas petit. Maintenant, les ulama, je ne sais pas s'ils vont en parler ici, ils ont dit, quand Allah dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il y a certains ulama, ils disent que c'est même ash-shirk al-asghar, c'est-à-dire le shirk mineur. Dans le sens où, comme le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, il n'est pas pardonné. C'est-à-dire que si un musulman il se présentait au Manqiyama, au jour du jugement, avec à son compte du shirk mineur, et Allah ne lui pardonne pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne lui pardonne pas? Il ne lui pardonne pas ce shirk mineur. Donc il va falloir absolument qu'il passe par l'enfer pour en être purifié avant d'entrer au paradis. Et d'autres ulama, ils ont dit, ça c'est à condition qu'il ne s'en soit pas repenti, bien sûr. S'il s'en est repenti, ça y est, le péché il est effacé. Et d'autres ulama, ils ont dit, il est comme le reste des grands péchés. Parce que quand vous regardez bien, le shirk mineur, c'est un grand péché en fait. Puisque ce n'est pas de la mécréance totale qui fait sortir l'islam. C'est dans le groupe des grands péchés. Donc il y a des ulama, ils ont dit comme le reste des grands péchés, si Allah il veut, il peut pardonner à la personne son shirk mineur. Et d'autres ils ont dit non, parce que dans le verset Allah il a dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Donc dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui meurt alors qu'il adore autre qu'Allah, un égal à Allah plutôt. Et ici, il a dit yad'ou. Yad'ou, ça vient du mot du'a. Wa huwa yad'ou. Mais comme je vous avais déjà expliqué, yad'ou, on peut traduire par il invoque, ou alors on peut traduire par il adore. Parce que du'a, c'est synonyme de ibada. Donc celui qui meurt alors qu'il adore autre qu'Allah, un égal. Nidden, ça veut dire un égal. Alors qu'il adore avec Allah un égal, entre en enfer. Rawah al-Bukhari. Donc ça c'est pour celui qui meurt sur la mécréance, cette personne c'est clair. Il n'y a pas de Jannah pour lui. المعنى الإجمالي للحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك. Donc il dit, la signification globale du hadith, c'est que celui qui prend un égal avec Allah dans l'adoration, qui l'invoque et lui demande par exemple le secours, etc., en même temps qu'il demande à Allah, comme il demande à Allah, ou alors en dehors d'Allah. C'est-à-dire le shirk, ça peut être que tu adores Allah et tu adores autre que lui, ou alors tu adores carrément pas Allah et tu adores cet autre. Les deux, c'est du shirk. Que ce soit un prophète, la chose qu'il adore, ou quoi que ce soit d'autre. Et qui continue sur ça jusqu'à ce qu'il meure. Ça veut dire qu'il meurt. Il ne s'est pas repenti de ce polythéisme. Et il meurt comme ça. Et bien celui-là, son destin, c'est l'enfer. Parce que c'est, on appelle ça un mushrik. Il dit, وَاتِّخَاذُ النِّدِّ عَلَى نَوَعِينَ. Et le fait de prendre un égal à Allah est de deux sortes. الأول, أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها. فهذا شرك أكبر صاحبه مخلد في النار. La première sorte, c'est de prendre un associé à Allah dans les différentes catégories d'adoration ou dans quelques catégories d'adoration. Donc ça, c'est du shirk akbar, polythéisme majeur, et celui qui le commet, il va en enfer éternellement. الثاني ما كان من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة وكيسير الرياء وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها. Donc la deuxième sorte du fait de prendre des égaux à Allah, c'est certaines façons de shirk asghar, de polythéisme mineur, comme le fait de dire Masha Allah wa shi'it, c'est-à-dire Masha Allah, si on traduit littéralement, ça veut dire ce qu'Allah a voulu. Et tu dis à une personne ce qu'Allah a voulu et toi, tu la mets à égal à Allah dans ta parole et non pas dans ton cœur. C'est-à-dire, si je te disais, est-ce que ça veut dire que ma volonté, elle est comme celle d'Allah, tu vas dire non. Mais simplement, c'est des paroles. Donc ça c'est du shirk mineur. Parce que c'est, t'as mis la volonté d'Allah à égal avec la volonté de l'être humain dans ta parole. En mettant le mot « waouh » entre les deux. C'est-à-dire « et », « et ». Ça, c'est interdit. Et le prophète, il l'a qualifié de polythéisme mineur. Et pourquoi, Cheikh Al-Fawzan, d'où il ramène que ça fait partie du fait de prendre des égaux à Allah? C'est parce que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand vous regardez dans le tafsir, il a dit dans la parole d'Allah, فَلَا تَعْجَعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا, ne donnez pas à Allah un égal. Il a dit, c'est le fait qu'un homme dise Masha Allah wa shi'it. Donc il a cité ça, il a cité le fait de prendre un égal avec Allah. Et comme exemple, il a donné des exemples de polythéisme mineur, donc qui sont dans les paroles. Ou alors le fait de dire, si ce n'était Allah et toi. Par exemple, tu dis, si ce n'était pas Allah et toi, j'aurais pas acquis telle ou telle chose. Ça aussi, c'est du polythéisme mineur. Si tu veux dire ça, tu dis, si ce n'était pas Allah, et ensuite toi. Ça veut dire en dessous. Mais tu ne mets pas Allah et la créature au même stade dans tes paroles. Ça, c'est du polythéisme mineur. Ou alors aussi, il cite ici ce qu'on appelle Yassir ul-Riya, c'est-à-dire l'ostentation. ما يستفاد من الحديث التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت. Donc on profite du hadith, la mise en garde contre le shirk et le fait d'en avoir peur et le fait d'inciter les gens à s'en repentir avant la mort. Pourquoi? Parce que il a bien dit, celui qui meurt dans cet état-là, il rentre en enfer. أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله. C'est aussi au profit du hadith que toute personne qui adore avec Allah un prophète ou un wali, qu'il soit mort ou vivant, ou une pierre ou un arbre, celui-là il a donné un égal à Allah. Anna shirka la yughfaru illa bit-tawbah. Que le polythéisme n'est pas pardonné si ce n'est par le repentir. Wa li muslimin an Jabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Donc le hadith il a un peu dans la même signification dans Sahih Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui rencontre Allah, donc ça veut dire c'est celui qui meurt mécréant, celui qui rencontre Allah alors qu'il lui associe quelque chose, et quand il dit ici quelque chose, shay'an, c'est comme dans le verset au début de Kitab Tawhid, donc je le rappelle. Quand il dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, on veut dire ça prouve l'interdiction d'associer quoi que ce soit à Allah. Il n'y a pas d'exception. C'est pas on n'a pas le droit d'associer à Allah sauf un prophète ou sauf un ange. Tout est interdit d'être associé à Allah. Donc il dit celui qui rencontre Allah alors qu'il lui associe quelque chose, ou plutôt non pardon, alors qu'il ne lui associe rien, rentre au paradis. Et rentre au paradis, on avait vu ça. Ça veut dire soit ça veut dire il a complété son tawhid. Ici, le fait qu'il lui associe rien, ça veut dire il a complété son tawhid et il était parmi les gens de la taqwa, donc il rentre au paradis directement. Ou soit on peut interpréter sa parole par c'est un monothéiste, et même s'il rentre au paradis pour se faire expier certains péchés, parce qu'il est en enfer pour se faire expier certains péchés parmi les grands péchés dont il ne s'est pas repenti, mais la fin, elle est au paradis. Donc de toute façon, il est au paradis. Et celui qui le rencontre, alors qu'il lui associe quoi que ce soit, entre en enfer. Donc on ne va pas répéter la signification du hadith, ça on a vu beaucoup. Ici seulement, Cheikh dit, يستفاد من الحديث أنه ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer le fait de faire beaucoup d'actions, mais il faut considérer le fait d'être saint du shirk. Pourquoi il dit ça? Parce que maintenant, dans les pays musulmans, tu vois des gens, ils ont une apparence pieuse, ils prient beaucoup, ils font le hajj, etc. Mais ces actions, elles ne comptent même pas auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est un mushrik. Il adore le Badawi, ou Abd al-Qadir al-Jilani, ou je ne sais pas qui, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces actions, elles ne comptent pas. Ici, il dit aussi, ici, Cheikh, قرب الجنة والنار من العبد وأنه ليس بينه وبينها إلا الموت. La proximité de l'enfer et du paradis vis-à-vis de chaque être humain, parce qu'entre lui et le paradis ou l'enfer, il n'y a qu'une chose, c'est la mort. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Chapitre de l'appel à l'attestation de لا إله إلا الله. Donc l'appel au tawhid. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعي إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف. Donc Allah il a dit dans le Coran, dis voici mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et subhanallah, c'est-à-dire pureté à Allah, et je ne suis pas parmi les mushrikin, les polythéistes. Donc Cheikh ici, je le lis quand même ça, il dit Cheikh Al-Fawzan, مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده عليكم السلام ورحمة الله ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Donc Cheikh dit ici, Cheikh nous a, il a attiré notre attention vers le fait que Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il nous a expliqué ce que c'est que le tawhid dans les chapitres précédents et le mérite du tawhid et le fait d'avoir peur du contraire du tawhid qui est le shirk. Et donc maintenant il nous montre que la personne qui connaît tout ça, elle ne doit pas se suffire d'elle-même, c'est-à-dire rétrécir le tawhid à elle-même et se replier sur elle-même, mais il lui est obligatoire, Cheikh Salih Al-Fawzan dit yajib, c'est-à-dire il lui est obligatoire d'appeler à Allah avec la sagesse, al-hikmah, et al-maw'idha al-hasana, c'est-à-dire la bonne parole, comme c'est le chemin des messagers. Et ça c'est ce qu'on fait dans, quand on étudie l'usul al-thalatha. Mohammed ibn Abdul Wahhab dit au début, on doit faire quatre, chaque musulman doit faire quatre choses: apprendre, appliquer, appeler à ce qu'il a pratiqué, et ensuite patienter sur les épreuves qui vont lui venir. Ensuite il dit par rapport au verset, يأمر الله ورسوله أن يخبر الناس عن طريقته وسنته أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان. Donc il dit Allah ordonne à son messager d'informer les gens à propos de sa façon de faire, et de sa sunna, et de montrer que sa sunna et sa façon de faire, c'est l'appel à l'attestation de la ilaha illallah. Ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Mais avec science, certitude et preuve. C'est-à-dire de ne pas appeler les gens comme ça à l'adoration d'Allah sans science. Surtout parce que les gens, tu vas être confronté à des choubouhettes. Et toi-même, la personne, n'importe quelle personne, être humain qui a une raison, à qui tu es en train d'appeler, il peut te demander d'où est-ce que tu sors ce que tu es en train de me dire. Quelles sont les preuves? Donc il faut la science. C'est pour ça que dans le verset il a dit ala basiratin. Basira ça veut dire la clairvoyance, ça englobe la certitude, le fait d'avoir des preuves dans ce que tu dis, la science. Et il a dit ana wa manittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Ça veut dire les vrais suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui appellent à Allah avec science. Et comme ils disent les arabes, faqidu shay'i la yu'tihi. Quelqu'un qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Donc si tu n'as pas de science à propos du sujet dont tu es en train de parler, tu ne peux pas le transmettre. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se rétracter et s'empêcher de faire da'wah jusqu'à ce qu'on devienne comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah. C'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que chaque chose à laquelle tu appelles, tu aies un minimum de science à ce sujet. C'est-à-dire tu l'as compris et tu as les preuves du Coran et de la Sunna à dire à ce sujet, et les références, et aussi tu connais un minimum de réponses aux choubourettes qui vont être auxquels tu vas être confronté, qui vont être répondus par ceux que tu as en face de toi. Donc ça, c'est contraire à la da'wa de tous les gens qui appellent n'importe qui à faire da'wa. C'est-à-dire, Ada, il se convertit à l'islam, le lendemain, il sort pour aller faire da'wa, il fait un bayan à une mosquée, à des gens qui prient depuis 50 ans, ou alors il fait une conférence parce que c'est une star du football qui est converti à l'islam, etc., etc. Ça, c'est contraire au minhaj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous a expliqué dans le Coran. Donc ensuite il dit وكل من اتبعه يدعو الى ما يدعو اليه على علم ويقين وبرهان وانه هو واتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ ممن اشرك به وان كان اقرب قريب. Donc aussi c'est que ceux qui le suivent appellent aussi comme lui avec science et certitude et preuve burhan. Et que lui, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui le suivent, purifient Allah, c'est-à-dire éloignent le fait qu'Allah ait un associé dans sa possession ou dans son adoration. Parce que subhanallah, c'est comme on disait, unazzihullah. Unazzihullah, ça veut dire, j'écarte d'Allah le fait d'avoir des manquements, d'avoir des défauts, et d'avoir un associé, d'avoir un égal. C'est ça que ça veut dire subhanallah. Et aussi, il se désavoue de ceux qui associent à Allah. Donc tout ça, c'est des bases de l'islam. Même si c'est la personne la plus proche de toi, c'est se désavouer des mécréants. Ça, c'est une des bases de l'islam. Et tout ça, ce verset, il concerne la da'wa. Donc il montre les bases de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent. Donc premièrement, il y a la science. Et le fait que l'appel, il commence à quoi ? Ad'u ila Allah. Ça veut dire l'appel, il commence au tawhid. Et aussi le fait que l'appel il se fait vers Allah, pas vers un groupe précis, c'est-à-dire un groupe dont les bases ont été fondées en dehors de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors appeler à soi-même pour des intérêts personnels. Tout ça c'est hors du minhaj du prophète. Le minhaj du prophète et de ceux qui le suivent sallallahu alayhi wa sallam, c'est ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. Et si on appelle à Allah, ça veut dire en premier à son tawhid, ala basiratin, avec science. Et il dit et je ne suis pas parmi les mushrikins, c'est-à-dire je me désavoue des mushrikins. Contrairement à ceux qui veulent travailler dans la da'wa en faisant des concessions dans leur da'wa, c'est-à-dire ils cherchent à regrouper les gens même s'ils sont de différentes mouvances, même si les mouvances qui sont concernées elles peuvent parfois atteindre la mécréance, comme al-Rawafid par exemple, mais on cherche à s'allier avec eux pour progresser dans la da'wa. Non, ça c'est contraire au minhaj du prophète. Parce que ce verset il parle bien, c'est un verset qui parle de la da'wa. Et à la fin il dit wa ma ana min al-mushrikin. Pas de concession, pas de mélange. On ne mélange pas la vérité avec du faux pour soi-disant avancer. C'est quel islam que tu vas faire avancer si déjà tu ne l'as pas purifié de la bid'a et du polythéisme. C'est pour ça aussi il ne faut pas avoir honte des gens, dans le sens où quelqu'un qui est dans la sunna, il ne doit pas faire de concession pour la da'wa. C'est-à-dire se taire sur certaines choses pour la da'wa, ou se mélanger à des gens de l'innovation pour la da'wa, en leur faisant des concessions. C'est-à-dire s'ils se mélangent avec eux pour les appeler eux, c'est bien. Mais si c'est pour soi-disant travailler tous ensemble, en fermant les yeux sur ce qu'ils font eux, ça c'est n'importe quoi. Comme ils ont fait à l'époque, certaines jama'at, elles allaient carrément, qui appellent à la da'wa, et elles s'allient avec, par exemple, les rawafid, les pires sectes, la pire partie des chiites. Ça, c'est complètement contraire à la voie de l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait de concession dans sa da'wa. Ensuite, il dit, ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on profite du verset ? Anna da'wata, donc là, il va répéter tout ça. أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه. Donc le fait que la da'wa à l'attestation de la ilaha illallah, donc au tawhid, c'est la voie du messager et de ceux qui le suivent. Donc c'est ça la première chose à laquelle ils doivent appeler les prêcheurs. C'est-à-dire quand tu es dans ta famille, tu es dans une société, tu es dans tes collègues, la première chose dont tu vas vérifier C'est-à-dire, si elle est bien comprise et si elle est bonne, c'est le tawhid. Ça veut dire, si tu connais ton oncle le Hajj, il envoie des lettres au bled pour les morts, va-t'en pas lui dire, ah mais faut que tu laisses pousser ta barbe. Ou va-t'en pas lui dire, ah mais tu fais pas la prière à l'heure. Même si la prière, ça a son importance, mais s'il est dans le coufre, ça va pas lui servir. Donc déjà, il faut lui apprendre le tawhid. Et ça montre aussi l'importance de la aqidah dans les noms et les attributs d'Allah. Parce que tout ça, c'est le tawhid. Et ça rentre dans la ilaha illallah. Et donc, celui qui enseigne aux gens le tawhid dans ses différentes façons, et notamment le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah, on ne dit pas de lui qu'il divise la communauté musulmane. Parce qu'il a fait qu'appliquer la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que ça plaise aux gens ou que ça ne leur plaise pas. C'est-à-dire, les messagers, ils ne cherchaient pas à plier leur message pour que ça plaise aux gens. La preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu les messagers, il a vu un messager avec 10 personnes, l'autre avec 3 personnes, l'autre 100 personnes. Pourquoi? Parce que les messagers, leur message, c'était de transmettre. Que ça plaise aux gens ou ça ne leur plaise pas. Tu n'es pas demandé de plier ton message pour ramener des gens. Donc le tawhid des noms et des attributs, ça fait partie des sciences les plus importantes dans l'islam, parce que c'est connaître qui est Allah, c'est connaître les attributs de ton créateur, c'est savoir qui est-ce que tu es en train d'adorer, qu'est-ce que tu as le droit de lire, qu'est-ce que tu as le droit de dire à son sujet, et qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire ou de croire, qu'est-ce qui est possible de dire à son sujet, al-jaiz, et qu'est-ce qui est impossible de dire à son sujet, etc. etc. C'est la connaissance du créateur des cieux et de la terre. Donc la personne qui appelle à ça, on ne dit pas de lui qui divise. Parce que maintenant, quand vous étudiez Tawhid à ce moment-ci, beaucoup ils vont vous dire pourquoi vous étudiez ça. Vous divisez la communauté musulmane, vous parlez des Ash'ari et des Mu'tazila et des Jahamiyyah, etc. L'argument, il n'est pas contre ceux qui font ça, il est contre eux. C'est vous qui avez ramené des innovations, qui avez divisé la communauté. C'est-à-dire que l'islam, il était simple. Et les gens, ils lui ont rajouté des croyances bidons, aspiré de la philosophie, et ils ont inventé les mouvements Mu'tazili, Ash'ari, Jahmi, Maturidi. Donc c'est qui a divisé la communauté? Est-ce que c'est ceux qui ont rajouté à la sunna et à la aqida ce qui n'en fait pas partie et qui ne connaissent pas la vraie aqida, ou est-ce que c'est celui qui enseigne la vraie aqida aux gens et qui met en garde contre ce que les gens ils ont rajouté dans la religion? Donc il ne faut pas mélanger. Donc c'est pour ça que la voie des messagers, c'est d'enseigner le tawhid. Ensuite, أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه عالما بما ينهى عنه. C'est-à-dire qu'il est obligatoire aussi à celui qui appelle الداعية d'être savant à propos de la chose à laquelle il appelle et d'être savant à propos de la chose contre laquelle il met en garde et de ce qu'il interdit. Il faut qu'il connaisse les preuves du Coran et de la Sunna concernant ce sujet. التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. Il dit le fait que le verset attire notre attention à propos de la sincérité dans la da'wa, dans l'appel à Allah. C'est-à-dire que celui qui appelle n'a aucun autre but que la face d'Allah, c'est-à-dire la récompense d'Allah. Quand je dis c'est-à-dire la récompense d'Allah, je ne dis pas que la face d'Allah, ça veut dire la récompense d'Allah. Ça veut dire on cherche la récompense d'Allah et la face d'Allah. Parce que les croyants, ils verront Allah au jour du jugement. C'est une des récompenses qu'on doit rechercher. Et non pas le fait d'acquérir des biens. Ou alors d'être un chef, c'est-à-dire acquérir une place. Ou alors d'acquérir les louanges des gens. Ou alors d'appeler à un hizb, c'est-à-dire à un groupe particulier ou à un madhab particulier. Tout ça, c'est contraire au minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ad'u ilallah, j'appelle à Allah, ça veut dire j'appelle pas à moi-même, j'appelle pas à un groupe particulier, si ce n'est At-Ta'if al-Mansoura al-Firq al-Najiya, c'est-à-dire si ce n'est le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Anna al-Basirata faridatun li anna attiba'ahu sallallahu alayhi wa sallam wajibun, wa la yatahaqqaqu attiba'ahu illa bil-Basirati wa hiya al-Ilm wal-Yaqin. Donc, on profite du verset que ce qu'on appelle Al-Basira est une obligation. Al-Basira qu'on traduit par la clairvoyance. Parce que le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. Or, il ne se réalise que par cette Basira. Et le Basira, c'est quoi? C'est la science et la certitude. Donc regardez le raisonnement, parce que le prophète il a bien dit, ceux qu'ils suivent, c'est ceux qui sont à la basira. Donc, il est obligatoire d'avoir la basira pour être un suiveur du prophète. Et cette basira, c'est quoi? C'est la science et la certitude. حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى. Donc le bienfait du tawhid, parce qu'il est le fait, le tawhid c'est le fait de d'écarter d'Allah tout manque, التنزيه, ou tout défaut, ou tout égal. كبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. La laideur du polythéisme, parce qu'il est une insulte à Allah. وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك. L'obligation aux musulmans de s'écarter des polythéistes et qu'ils ne deviennent pas parmi eux et qu'il ne suffit pas de ne pas associer. C'est-à-dire il ne suffit pas que la personne n'associe pas en elle-même, mais il faut aussi qu'elle désavoue le polythéisme et les gens du polythéisme. Ça c'est une des grandes bases dans l'islam. Comme Allah il a dit, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yawadduna man hadda Allah wa rasulahu. » Tu ne trouveras pas des gens qui croient à Allah au jour dernier et qui aiment ceux qui combattent Allah et son messager. Donc c'est-à-dire l'amour de autres que les gens de la croyance, il est interdit. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. Donc c'est rapporté par Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud. Donc dans ce hadith, Ibn Abbas il nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'az au Yémen, donc Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu, il lui a dit, tu vas vers des gens du livre, donc que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation La ilaha illallah. Les gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Parce qu'à l'époque, les arabes du Yémen, leur religion c'était le christianisme et le judaïsme. Il n'y avait pas de polythéisme tel que celui des arabes de Quraysh au Yémen. C'est-à-dire les arabes du Yémen, c'était des gens soit chrétiens, soit juifs. Donc il dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit La ilaha illallah. Et dans une autre version, il a dit soit qu'ils unifient Allah, an yuwahidullah. Ce qui montre que la base du mot tawhid, tawhid c'est cité dans les hadiths, parce qu'ici il a dit an yuwahidullah. Et que le tawhid c'est le synonyme de La ilaha illallah. Il dit ensuite à Mu'az, et s'ils t'obéissent sans ça, alors informe-les qu'Allah leur a imposé 5 prières par jour et par nuit, c'est-à-dire 5 prières dans le jour et la nuit. Et s'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé une sadaqa, c'est-à-dire une aumône, qui est prise de leurs riches pour être retournée à leurs pauvres. Et s'ils t'obéissent en cela, alors fais attention à leurs biens les plus précieux. C'est-à-dire que dans la zakat, il ne doit pas prendre les meilleurs biens, ni les biens les plus mauvais. Il doit prendre ce qui est au milieu. Parce que s'il prend les meilleurs biens, il va léser les riches. Et s'il prend les biens les plus pourris entre guillemets et il va les donner aux pauvres, les pauvres ils seront lésés, ils ne vont pas profiter. Et il dit, et craint l'invocation du mazloum, c'est-à-dire de celui à qui on commet une injustice, l'opprimé, parce qu'il n'y a pas entre elle et Allah de voile. Donc c'était comme Mu'ad, il allait être juge là-bas et dirigeant, il lui a dit fais attention à l'invocation de l'opprimé. Donc ça c'est un conseil pour les dirigeants, c'est une indication, une façon de se comporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux dirigeants, c'est de craindre l'invocation de l'opprimé, parce que le dirigeant il est responsable de tous ceux qui sont en dessous de lui. Donc s'il ne doit pas te commettre d'injustice, parce que si une personne invoque contre lui, et de façon générale une personne qui subit une injustice, si elle invoque contre celui qui a été injuste, eh bien, cette invocation elle n'est pas retenue pour qu'elle monte vers Allah. Il n'y a pas de voile entre elle et Allah, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sera exaucée. Donc il dit Cheikh al-ma'n al-ijmali ou l'il-hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته. Donc quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a envoyé معاذ au Yémen, il lui a expliqué sur quelle voie il allait marcher dans sa da'wa. فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى. Donc il lui a montré qu'il allait trouver des gens qui ont de la science, parce que c'est des gens qui ont du livre, et du djadal, ça veut dire ils ont des arguments. Ils vont argumenter avec toi, ils vont discuter, ils vont, c'est-à-dire quand je dis discuter, c'est pas discuter pour faire connaissance, discuter avec argumentation. Parmi les juifs et les chrétiens, liyakuna ala ahbati ala hibatin limunadharatihim wa raddi shubahihim. Pour qu'il soit sur ses gardes et qu'il soit, il soit prévenu dans le fait d'argumenter avec eux et dans le fait de rejeter leurs ambiguïtés. Il fallait qu'il se prépare à ça. Donc la simple parole du prophète, tu vas rencontrer des gens du livre, les ulama, ils en ont tiré beaucoup de fruits. C'est-à-dire, c'est comme s'il lui disait, prépare-toi à recevoir des arguments auxquels tu vas devoir répondre. Et prépare-toi à avoir en face de toi des prêtres et des rabbins qui connaissent leurs livres. Et qui en cache une partie. Et donc toi tu dois connaître le sujet pour les appeler à l'islam. Et ça, c'est, ça montre aussi que quelqu'un il doit savoir qui il a en face de lui. Et qu'on ne parle pas à quelqu'un qui est en 2007 comme on pouvait parler à quelqu'un d'avant. On ne parle pas à quelqu'un qui est en France comme on parle à quelqu'un qui est dans un autre pays. On ne parle pas à un jeune comme on parle à un vieux. On ne parle pas à un riche comme on parle à un pauvre. Chaque personne a là ses ambiguïtés. Et ça, ça montre aussi les priorités dans la da'wah. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise habitude. C'est que dès qu'ils connaissent la sunna, ils vont vers des gens qui n'appliquent rien du tout de la religion pour lui dire tout de suite, la barbe c'est obligatoire, ou tu ne dois pas laisser traîner ton vêtement en dessous de ta cheville, ou alors il faut te dire salafi. Et ça, tout ça, c'est pas... C'est-à-dire, c'est pas... Même si c'est vrai, mais c'est pas des priorités. Tu dis pas à une personne qui ne fait pas la prière que son pantalon, il est en dessous de sa cheville. Est-ce que déjà elle a compris qu'elle doit obéir à Allah et son prophète? C'est-à-dire commence par les principes de base. Enseigne-lui qu'elle doit adorer Allah. Que pour que son adoration soit valable, elle doit obéir au prophète. Une fois qu'elle aura compris ça, et que tu lui montres que parmi les ordres du prophète, il y a le fait de laisser pousser sa barbe, ben elle va laisser pousser sa barbe. Mais si toi tu viens comme ça en lui disant faut laisser pousser ta barbe, parce que le prophète a dit ça, lui il va dire ouais le prophète d'accord il l'a dit, mais... c'est plus la même époque, ou alors il l'a dit mais c'est pas obligé, etc. Il n'a pas les bases. Ça veut dire il n'a pas les bases pour comprendre et pour appliquer les ordres. Pareil quand tu dis, quand tu peux, par exemple peux argumenter avec quelqu'un qui est dans un groupe basé sur des innovations, tu viens pas lui dire tout de suite ton truc c'est une innovation. Peut-être lui il n'a pas conscience déjà que ça existe une innovation dans l'islam. Il y a beaucoup de gens, quand ils entendent le mot bid'a, ils disent c'est quoi ça? Ils connaissent les péchés et la mécréance, mais la bid'a, ils ne connaissent pas. Donc déjà, parle-lui du suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, explique. Lui-même, il va se dire, si c'est ça le suivi du prophète, est-ce que cette chose que je fais là, elle est vraiment conforme? Donc où est-ce que j'en suis? Et aussi le fait que, on voit là, par là, certains groupes parfois ils appellent les gens à parler sans faire attention à qui ils ont en face d'eux. Donc ils partent dans des pays faire comme ils appellent ça le khuruj, et ni ils connaissent la langue du pays, ni la culture du pays, ni comment ils pensent les gens du pays, ni les habitudes du pays. Donc ils vont en Colombie, ils vont en Afrique, etc., etc., et ils parlent à tous les gens de la même façon, c'est-à-dire Allah il a créé, Allah il a fait ci, Allah il a fait ça. Alors que, parce que même si c'est vrai qu'ils parlent qu'aux musulmans, mais peut-être que les musulmans d'Afrique, ils n'ont pas les mêmes choubouhettes que les musulmans de France. Et les musulmans de France n'ont pas les mêmes choubouhettes que les musulmans d'Amérique. Donc la personne, elle doit connaître un minimum le contexte du truc ou de la mosquée ou du pays où elle vient parler. Et ensuite, donc ici, Cheikh dit, il lui a indiqué de commencer dans sa da'wah par les priorités, la chose la plus importante, et ainsi de suite. فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس. Donc il appelle les gens premièrement à corriger la aqida, c'est-à-dire la croyance, parce que c'est ça la base. Contrairement aux gens maintenant qui vont dans des sociétés musulmanes et qui appellent à la première chose à laquelle ils appellent, c'est le hukm, c'est-à-dire changer le gouvernement. Et ils appellent à des manifestations. Dans la manifestation, hada c'est un soufi, hada c'est un ash'ari, hada c'est un maturidi, hada peut-être il prie pas, hada il boit, etc., etc. Donc ils regroupent un but qui n'était pas le premier but. Le premier but, c'est quoi? Que tu les appelles à l'attestation de la ilaha illallah. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Et une fois qu'ils t'auront obéi dans ça, vois avec eux pour autre chose. فَإِذَنْ قَادُوا لِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الْوَاجِبَاتِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ. Et une fois qu'ils ont compris ça, qu'ils t'ont suivi dans le tawhid, à quoi tu les ordonnes? C'est quoi la première chose que tu ordonnes? La salat. Parce que c'est la plus grande des obligations après le tawhid. فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله. Et ensuite, une fois que ce peuple accomplisse la salat, là il leur donne leurs riches, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de payer la zakat qui est distribuée aux riches. Donc là c'est pareil aussi pour aux pauvres, pardon. C'est pareil pour une personne qui se convertit, par exemple. Une personne qui se convertit, première chose que tu lui apprends, c'est comprendre l'islam. Le tawhid, la sunna, qu'est-ce que c'est que le Coran, la vie du prophète. La première chose que tu lui demandes dans la pratique, c'est la salat. Une fois qu'il prie, explique-lui la zakat. Et quand Ramadan il vient, tu lui dis de faire Ramadan. Quand tu vois qu'il pratique, tu lui dis le reste des obligations.
ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليهم مظلوم ودعوته مستجابة.
Ensuite il lui a indiqué, comme j'ai dit tout à l'heure, de prendre les biens qui sont au milieu, pas les meilleurs biens ni les plus mauvais, et le fait de faire attention de ne pas faire d'injustice envers les gens, parce que la vocation de celui qui subit une injustice, elle est acceptée chez Allah. Et ça, il faut savoir que c'est même pour le kafir. Donc ça veut dire que tu ne fais pas tête à queue au kafir ou tu lui grilles la priorité comme ça parce que tu te dis c'est bon, c'est un kafir. Ça c'est du dhulm. Et s'il se trouve que ce kafir est l'avocat Allah contre toi, sa doua elle est acceptée. Et c'est quoi le dalil? وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. C'est quoi la suite? فَلَمَّا vas-y dis. Al-Muhim, il y a beaucoup de versets. De toute façon, vous les avez déjà lus. Je n'ai plus le verset en tête. Où Allah dit, lorsqu'ils sont en mer, c'est-à-dire les kuffars, ils parlent des kuffars, dans le bateau, et que leur vient à la tempête, etc., ils invoquent Allah sincèrement, et une fois qu'il les a écartés de leur mal, ils associent Allah. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Une fois qu'il les a écartés, ça veut dire qu'il les a exaucés. Et pourtant, c'est des kuffars. Donc Allah il peut exaucer aussi un non-musulman dans sa doua. S'il invoque Allah, un non-musulman, Allah il peut l'exaucer, surtout si c'est da'wat al-mazloum, l'invocation de celui qui subit une injustice. Et ça c'est contraire à la voix des descendants d'Israël, quand ils ont dit « Laysa alayna fil ummiyina sabil » c'est-à-dire il n'y a pas de voix pour les illettrés c'est autre que eux, envers nous. Ça veut dire on peut abuser d'eux comme on veut. Et ça, c'est ça leur voix. C'est abuser de autre que, c'est-à-dire abuser des goyes. Abuser de ceux qui ne sont pas de leur religion. Et ça, c'est contraire à la voix de l'islam. La voix de l'islam, c'est pas être injuste même envers un non-musulman, parce qu'il peut invoquer Allah contre toi.
Ensuite, il dit, ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on profite du hadith? مشروعية إرسال الدعاة إلى الله.
Le fait qu'il est légiféré d'envoyer des prêcheurs à Allah, des gens qui appellent à Allah.
أن شهادة لا إله إلا الله أول واجب وهي أول ما يدعى إليه الناس.
Le fait que l'attestation لا إله إلا الله est la première obligation, c'est-à-dire avant la salat et la zakat, et c'est la première chose à laquelle on appelle des gens. أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Le fait que la signification de cette attestation, c'est d'adorer Allah seul et délaisser l'adoration d'autres qu'Allah.
أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين.
Le fait qu'on ne juge pas qu'un musulman est rentré dans l'islam tant qu'il n'a pas prononcé les deux attestations.
Et notamment, ça veut dire que si tu parles avec un collègue de l'islam et il te dit ouais, c'est pas mal ce que tu dis, ouais, moi je pense que c'est vrai, ça l'a pas fait rentrer dans l'islam. Faut bien faire attention. Parce qu'il peut juste croire que c'est vrai, mais il veut pas se soumettre. C'est deux choses.
Non, ben non, 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 non. Non, c'est quand on dit, parce qu'il a bien dit, il n'y a pas entre elle et Allah de voile, la vocation de l'opprimé. Donc entre elle et Allah, ça veut dire s'il invoque Allah, s'il invoque son statut, t'as gagné, tu n'arriveras à rien.
Ensuite il dit أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب.
Aussi le fait qu'un être humain il peut être quelqu'un qui lit, quelqu'un qui connaît, c'est-à-dire il est عالم, il connaît beaucoup de choses et pourtant il connaît pas la signification de la ilaha illallah. Ou alors il la connaît mais il n'agit pas selon ce qu'elle implique, comme c'était le cas des gens du livre. Parce que les gens du livre au Yémen, c'était des gens du livre. Ça veut dire qu'ils avaient des rabbins, des prêtres, ils savaient lire, ils avaient le livre. Ils avaient de la science. Et pourtant, est-ce qu'ils connaissaient la ilaha illallah ? Ils ne la connaissaient pas. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de les appeler. Ou soit ils la connaissaient, mais ils ne l'appliquaient pas. Ce qui a fait qu'ils n'étaient pas musulmans. Parce que s'ils l'avaient appliqué sincèrement, ils auraient suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل.
Aussi le fait, c'est le fait que le fait de parler à un savant n'est pas comme le fait de parler à un ignorant, parce qu'il a bien prévenu, tu vas voir des gens du livre.
التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين وذلك بطلب العلم.
Le fait que le chapitre attire notre attention sur le fait que tout être humain et surtout celui qui appelle à Allah doit être à la basira, doit avoir la clairvoyance, c'est-à-dire on avait dit la science et la certitude vis-à-vis de sa religion, pour se débarrasser des mauvais arguments, des ambiguïtés, c'est-à-dire les choubouhettes, de ceux qui donnent des choubouhettes, de ceux qui sont en face de lui. Et ça n'arrive et ça n'arrive que par le fait d'étudier la religion.
Et c'est triste maintenant, c'est-à-dire on voit beaucoup de jeunes, ils s'accrochent à la religion de façon globale. Ça veut dire qu'il était dans le fasad, son cousin lui a parlé, il s'est repenti, alhamdoulilah, il a commencé à découvrir un peu, il a laissé pousser sa barbe, il est dans la sunna, mais il n'a pas dépassé. Ça veut dire qu'il s'est arrêté à ça. Et après, il apprend rien. Ça veut dire si tu lui demandes comment la femme elle doit se purifier après les menstrues, ou c'est quoi le... des sujets un peu précis, ou comment tu payes ta zakat, il connaît rien. Ou alors si on lui dit donne-moi un dalil comme quoi Allah il est au-dessus de nous, il sait pas. Et ça c'est beaucoup de frères comme ça malheureusement. Et après il faut pas s'étonner si ta foi elle chute, ou alors tu rentres dans la routine, ou alors les gens autour de toi ils te mettent des doutes, si t'as pas fait la cause qui est ce qu'on appelle talab al-ilm. Et les personnes les plus à même, les plus qui méritent le plus ou qui devraient le plus faire talab al-ilm, c'est bien ceux qui se réclament des salafs. Donc c'est pas tout de dire je suis salafi, ça veut dire je me réclame Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les tabi'in et tabi'at tabi'in. Mais comment ils étaient eux? Est-ce qu'ils regardaient tout le temps les matchs de foot et la télé et après ils se permettaient de parler sur les gens de l'innovation, ou est-ce que c'était des gens qui faisaient des efforts pour apprendre et aussi pour pratiquer, et qui ont réuni entre la science et la pratique? Et si on regarde notre situation maintenant, bah beaucoup de frères, tu les vois, par exemple, ils ont un salaire. Quand tu vas chez lui, tu vois une bibliothèque de DVD.
Tu vois une PlayStation avec un bel écran, avec plein de jeux. Tu vois un investissement dans les baskets, tu vois un investissement dans plein de trucs. Mais si tu regardes la bibliothèque, tu as un vieux Usul Thalatha traduit d'Arabie Saoudite que son oncle lui a ramené du Hajj. Tu as Adab Zifaf parce qu'il voulait, il voulait pas faire n'importe quoi quand il s'est marié. Et après, ça y est, c'est fini. Alors que la science, elle est vaste. Non, et elle est vaste et en plus, elle est facilitée. Ça veut dire maintenant, quelle excuse on a? Il y a 10 ans, à la limite, on pouvait dire, ouais, c'est galère, il n'y a que des vieux livres de Dar el-Fikr du Liban qui sont traduits, je ne sais pas quoi faire. Mais maintenant, vas-y les livres, vas-y les sites internet, vas-y les cours en arabe pour apprendre l'arabe. Une fois que tu as l'arabe, alors là, c'est pire. Et donc, il faut s'efforcer, il faut se donner un but et un programme. Ça veut dire, il faut que j'étudie l'arabe. Au moins, je fasse les 3 tomes de Médine. Quand j'ai fini les 3 tomes de Médine, j'étudie l'Ajurumiyya dans la grammaire. Minimum, il faut ça, c'est mon minimum. Et que je sache l'appliquer. Il faut que je connaisse le tajwid pour que je lise le Coran comme Jibril il a récité à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pas en disant n'importe quoi. À tel point que si dans la mosquée on me dit vas-y fais l'imam, je peux pas parce que je sais pas lire le Coran. Alors que c'est moi qui ai la barbe. C'est la honte. La aqida, au moins que j'ai fini l'usul al-thalatha de Mohammed ibn Abdel Wahhab, Kitab al-Tawhid qu'on est en train de faire, et l'wasitiya. Parce que l'wasitiya, dedans, il y a les noms et les attributs d'Allah. Au moins ça, si tu n'as pas fait ça, qu'est-ce que tu connais de la religion? Ou si tu fais pas ces livres-là, quand je dis ces livres-là, c'est des exemples. Tu peux faire d'autres livres, plus simples ou plus compliqués, dans lesquels il y a le même sujet. Dans le fiqh, au moins étudier l'explication de Umdatul Ahkam ou de Bulugh al-Maram. Et Bulugh al-Maram, au moins tu étudies le chapitre des ablutions et de la salat. Parce que peut-être tu n'as pas besoin de payer de zakat et du ramadan. Et peut-être tu n'as pas besoin de faire le hajj. Au moins ça. Les akhlaq, etc. etc. Et, etc. etc. Le fait que la salat est la plus grande obligation après les deux attestations, à tel point que les ulama, comme vous le savez, ils ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse la salat. Et certains ulama, ils disent que c'est par consensus, donc ça peut vous étonner, que c'est un consensus de la communauté, que celui qui délaisse la prière n'est pas musulman, qu'il la délaisse par insouciance ou par négligence. Contrairement à celui qui la délaisse parce qu'il considère qu'elle n'est pas obligatoire, celui-là, il est mécréant sans aucune divergence chez les ulama. La divergence, elle est chez celui qui la délaisse par négligence, par paresse, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Bayna al-rajuli wa bayna al-shirki wal-kufri tarkus salat » Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la salat. Et dans l'autre hadith, il a dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salat » C'est-à-dire la chose qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Donc celui qui la déesse a mécru. Et même si vous lisez parfois l'imam Malik, par exemple, l'imam Shafi'i, il disait, l'imam Abu Hanifa, il disait que celui qui la délaisse, c'est un fasiq et pas un kafir. Il faut savoir que l'imam Ishaq ibn Rahawai, qui était de l'époque contemporaine de l'imam Ahmed, et dont l'imam Ahmed a dit Ishaqu imamun min a'immatil muslimin. Ishaq est un imam parmi les imams des musulmans. Parce qu'il y a beaucoup d'imams qui sont considérés comme des imams et qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas que l'imam Malik, Abu Hanifa, Ahmed et Shafi'i. Il y a Sufyan al-Thawri, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'd, Ishaq ibn Rahawi. Au moins ceux-là, il faut les connaître dans leur génération, la génération après les tabi'in. Et ce Ishaq ibn Rahawi, qui disait notamment connaître 500 000 hadiths par cœur, pour la parenthèse, il disait que c'est un consensus des musulmans que celui qui délaisse la prière par négligence n'est pas musulman. Et peut-être que, donc, il avait raison, et que ceux qui ont jugé que c'était pas un mécréant, c'est simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ce consensus. Et Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, un tabi'i, disait « Ma kana sahaba yarawna amalan tarkuhu kufrun illa salah » Les sahaba ne voyaient pas, un tabi'i a dit, les sahaba ne voyaient pas une action dans le délaissement et de la mécréance, si ce n'est la salat. Et le fait que celui qui délaisse la salat est mécréant, ça a été cité par beaucoup de sahaba, notamment Omar ibn al-Khattab, quand il a dit « Laysa li tariki salati hafdhun min al-islam » celui qui délaisse la prière n'a aucune part de l'islam. Et ensuite, il faut savoir encore pire pour que ça nous fasse peur, que ceux qui disent que celui qui délaisse la salat c'est un kafir, parmi eux, et la plupart d'entre eux même, comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ils disent que ça veut dire celui qui délaisse une prière dans son temps. C'est-à-dire si l'heure du dhuhr elle est rentrée, et avant l'asr, t'as pas prié le dhuhr, khlas, kafarta billahi wa rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. T'es devenu non-musulman. Sauf si t'as une excuse où, par exemple, t'as dormi et t'as pas entendu le réveil, ou alors le sommeil était trop lourd, t'as rien entendu. Ou alors, t'étais, je sais pas moi, t'étais malade et t'as regroupé les prières. Ce genre d'excuse-là, d'accord. Mais celui qui délaisse, qui l'a fait sortir de son heure sans excuse valable, celui-là, il est sorti de l'islam. Et c'est l'opinion de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Quand on lui a posé la question à propos de quelqu'un qui ne met pas le réveil pour le fajr, ou alors il le met, mais il sait très bien qu'il ne se lèvera pas. Il le met, mais il le met après le lever du soleil. C'est-à-dire qu'il commence l'école à 8h30, alors il le met à 7h, alors qu'à 7h, le fajr, c'est déjà fini. Parce que par exemple, le fajr était à 7h et ça finit à 6h30. Abdelaziz Ibn Baz, il a dit, celui-là, il n'est pas musulman. Donc, délaisser la prière, il faut comprendre ce que ça veut dire. Certains, ils disent, ça veut dire qu'il ne la fait pas du tout. D'autres, ils disent, ça veut dire qu'il en a laissé une seule, sortir de son heure. Celui-là, il doit se repentir, rentrer dans l'islam. Donc, c'est dangereux. Comme ça, là, أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. وفي aussi le fait que la zakat est le principal pilier après la salat. Et aussi dans la zakat, il y a des ulama qui disent celui qui la délaisse, il est sorti de l'islam. Et là, une de leurs preuves, c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, ma tariku az-zakati bi muslim. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit celui qui délaisse la zakat n'est pas musulman. Donc c'est une des preuves pour ceux qui disent celui qui délaisse la zakat n'est pas musulman. Même si c'est un petit groupe de ulama, c'est une minorité. Bayan masrafin min masarif az-zakat. Donc après il dit le fait que les pauvres font partie de ceux à qui on distribue la zakat et qu'on doit pas. Donc tout ce qu'on avait dit à propos de la zakat et de la justice, on va s'arrêter là inchallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.